Vous écoutez On lit pour vous.
Histoire et évolution de l'art public au Québec, un texte de Catherine Lalonde paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir. La ville de Laval a aboli en décembre 2025 sa récente politique d'art public. Instaurée en 2021, elle était plus ambitieuse que la politique semblable de l'État. Mais face à l'explosion de tous les coûts, Laval révise sa position et sa politique. Le Devoir jette un regard sur l'art public au Québec. En voici l'histoire. En 1686, au centre de la place du Marché, à Québec, un buste en bronze de Louis XIV fut érigé. C'est la première œuvre d'art public du Québec. Elle changea le nom de la place pour « Place Royale ». Malgré les plaintes des marchands qui trouvaient encombrant le buste. Depuis, l'art public au Québec a mué et muté. Des premières sculptures honorifiques et des bas-reliefs commémoratifs du monument à Sire Georges-Étienne Cartier, en 1919, au pied du Mont-Royal, jusqu'à l'anneau, 2022, de 23 tonnes à la place Ville-Marie, en passant par des intégrations son et lumière, refaisons le parcours historique. Suivez le guide. Il y a toujours eu traditionnellement des sculptures commémoratives au Québec, rappelle l'historienne de l'art Danielle Doucet, spécialisée en art public. Issues de commandes directes, souvent financées par des particuliers, ces œuvres venaient commémorer des personnages, des événements historiques et étaient évidemment liées au pouvoir. Politique, économique, religieux. C'était aussi des œuvres pédagogiques. Au fil du temps, les sujets changent. Alfred Laliberté, par exemple, signe tout autant un monument à Saint-Joseph en 1923 ou aux Patriotes en 1926 que la fermière du marché Maisonneuve en 1915 et les petits baigneurs en 1916 du bain Morgan. Les thèmes des sculptures et des œuvres restent liés à la fonction des lieux qui les nichent. Avant la Deuxième Guerre, un mouvement se dessine au Canada porté par des artistes qui demandent davantage d'art public, explique Madame Doucet. C'est qu'ils ont voyagé et ont vu l'effet des œuvres des muralistes mexicains des années 1920 et les murs très colorés par les pinceaux des Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros ou José Clemente Orozco. Arrive la guerre. Les pensées sont ailleurs. Ensuite, avec le baby-boom, le Québec vit une explosion de construction. Des écoles poussent, des centres sportifs. Les commerces vont bien et se bâtissent pignon sur rue. On vit une frénésie de construction, rappelle Madame Doucet. Il y a une effervescence. Les commanditaires des bâtiments engagent des architectes modernes. Ils suivent la modernisation de la société et ce mouvement architectural parti de l'Europe dans les années 1920, marqué par Le Corbusier. Un autre courant d'inspiration vient des voisins américains. Du volet artistique de leur New Deal et de l'agence fédérale Work Progress Administration, qui a provoqué, dans les années 1940, des surgissements d'œuvres dans toutes sortes d'édifices aux États-Unis. L'alimentation et l'art public. À l'Université McGill, le département d'architecture anglophone est très attiré par ces idées, poursuit la spécialiste. À l'École des beaux-arts de Montréal, francophone, la vision de l'architecture est plus traditionnelle, mais les étudiants y côtoient pendant leur scolarité les artistes en formation. Ces architectes beaucoup plus modernes ont engagé, en toute logique, des artistes modernes, raconte Danielle Doucet. Et à partir du milieu des années 1950, on voit déjà l'abstraction prendre sa place dans les œuvres qui émergent. Les secteurs de l'alimentation et des banques ont été novateurs en art public. Imaginez des œuvres sur les façades de votre Maxi ou de votre IGA. À l'époque, Steinberg est un moteur, affirme l'historienne. au coin Sainte-Catherine et de Morgan, à Montréal, une mosaïque de Joseph Liu en témoigne encore. Elle a été restaurée de justesse début 2000. Dans les années 1950, on passe de l'idée de la décoration à l'intégration de l'art à l'architecture. Un lien qui se faisait déjà de manière naturelle par les alliances entre architectes et artistes et par le désir des artistes qui voulaient démocratiser l'art, Jean-Paul Mousseau et Charles Daudelin, par exemple. Plusieurs écoles, dont celle du CSSDM, intègrent des œuvres pendant ces décennies. Puis, la première politique publique est instaurée en 1961. C'est alors une simple mesure qui vise l'embellissement par des artistes de la province de certains édifices publics. La France avait déjà instauré sa politique à elle 10 ans plus tôt. Les œuvres du métro. La mesure de Québec n'impose alors aucune obligation. La suit seulement celui qui veut. Elle vise uniquement les édifices appartenant à l'État. Les œuvres avoisinent, dans cette foulée, surtout des bâtiments du système judiciaire, des postes de la SQ, au centre de détention, au palais de justice. Mais c'est à cette période aussi que le grand Jordi Bonnet, Claude Péloquin, est créé. La murale, le passé, le présent et le futur. La mort, l'espace, la liberté ornent depuis 1969 le Grand Théâtre de Québec et son slogan « Vous êtes pas écœuré de mourir, bande de caves » marque encore les esprits. Vous écoutez « Histoire et évolution de l'art public au Québec », un texte de Catherine Lalonde, paru le 31 janvier 2026 dans Le Devoir. Autre moment marquant. La construction des 23 premières stations de métro de Montréal dans les années 1960. Le programme de décoration est légué au caricaturiste Robert Lapalme. Des verrières de Marcel Ferron et de Frédéric Bach, une céramique de Mousseau, une bande d'aluminium de Daudelin, une gravure sur béton de Bonnet y sont intégrées. C'est en 1981 qu'arrive la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement que les gens du milieu appellent le 1%. Depuis, environ 1% du coût total de construction d'un bâtiment doit être alloué à l'intégration d'une œuvre d'art. Changement majeur, surtout pour la manière de choisir les œuvres. Auparavant, les amitiés entre architectes et artistes guidaient grandement les choix. Des artistes qui ont travaillé beaucoup de 1961 à 1981, comme Mousseau, Daudelin, Liu, Claude Théberge et Jacques Dubonnet, trouvaient que ça fonctionnait très bien, affirme Daniel Doucet. Certains, comme Daudelin, ne se sont pas reconnus dans la nouvelle politique. Maintenant, l'architecte n'est plus seul à décider. Tout un comité choisi, composé aussi d'un représentant du propriétaire, un du ministère, un représentant des citoyens, d'un artiste professionnel en art visuel ou en métier d'art. Ce comité sélectionne des artistes exclusivement dans la base de données fichier des artistes. On en compte 411. De ceux-là, 311 peuvent faire des œuvres en deux dimensions et 247 travaillent le 3D. Les artistes élus sont invités à proposer une œuvre. Le comité nomme le projet gagnant. Le ministère de la Culture, MCC, ne sait pas combien des artistes du fichier ont déjà signé un 1%. Le privé en art public. Depuis 1961, quelques 5000 œuvres d'art public ont été intégrées aux immeubles et aux places en vertu du 1%. Entre 2019 à 2022, 361 œuvres ont été sélectionnées. Les données depuis 2022 jusqu'à 2024 ne sont pas disponibles encore, selon le MCC. Qu'est-ce qui a évolué en art public depuis la loi du 1%? Jean-Pierre Chupin, titulaire de la chaire de recherche du Canada en architecture, Concours et Qualité estime que la politique sert à engager les artistes dans tous les sens du terme, à montrer qu'ils veulent et peuvent contribuer aux enjeux de la société, être impliqués dans la vie citoyenne. Le spécialiste croit toutefois qu'un choix d'œuvre par concours plutôt que par comité permettrait un processus plus transparent et démocratique. Danielle Doucet, elle, voit un changement dans les matériaux. On a encore de grandes sculptures magnifiques faites avec des matériaux anciens, nobles, mais maintenant il peut s'intégrer en plus de la lumière, du son, des projections. La sculpture domine encore. Dans le bilan 2019-2022 de l'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement pondu par le gouvernement, elle représente en moyenne 59% des œuvres. La catégorie inclut des mobiles, des bas-reliefs, des monuments ou du land art. Les deux dimensions suivent peinture, estampe, photographie, dessin et forment un segment important de la création. Les aménagements, le travail sur le mobilier urbain, par exemple, sont la discipline la plus rare pour cette période, à environ 1%. Est-ce que la politique, toutefois, n'a pas provoqué un recul des investissements entièrement privés? Danielle Doucet réfléchit. C'est vrai qu'on voit beaucoup moins de commanditaires maintenant. La maison Simons est une entreprise qui croit à l'art public. Des œuvres sont intégrées dans de nombreux magasins et la compagnie a aussi offert la fontaine de Tourny à la ville de Québec en 2008 pour le 400e de la vieille capitale. Beneva, autre exemple, a commandité deux œuvres de Linda Covitt pour ses édifices en 2025. Voir, revoir, au revoir. Quels sont les enjeux de l'art public aujourd'hui? Défier l'usure du regard. Au fil des années, une fatigue s'installe, une assuétude quand on passe et repasse tous les jours devant une œuvre, explique Madame Doucet. On oublie parfois que c'est beau, coloré, inusité. Loin des yeux, loin du cœur. Quand on ne voit plus, on ne prend pas soin. Et la conservation est l'autre difficulté. Sous les intempéries, les œuvres peuvent vieillir plus vite et nécessiter de l'entretien, donc des sous. Comme pour toute collection d'art, il peut y avoir en art public des changements. Des œuvres disparaissent, d'autres apparaissent. Maintenant, on demande aux artistes de faire une œuvre qui durera de 20 à 25 ans. On ne veut pas non plus faire de la ville un musée à ciel ouvert, s'exclame Madame Doucet. Mais couper l'art public par économie est un mauvais choix, estime Jean-Pierre Chupin, même en contexte ardu. Prétendre que l'art est superflu, soupire-t-il, même dans les peuples les plus reculés, jamais un sorcier n'a dit « Toi, tu ne feras pas ce masque parce que ça coûte trop cher. » C'est n'importe quoi comme argument, estime le spécialiste. Le MCC a révélé au Devoir procéder actuellement à un exercice de réflexion visant à mettre à jour la plus récente version de la politique qui aura 30 ans cette année. Le ministère espère pouvoir présenter cette nouvelle version en 2026. C'était « Histoire et évolution de l'art public au Québec », un texte de Catherine Lalonde paru le 31 janvier 2026 dans le Devoir.
Les bienfaits de ces petites conversations, un texte d'Oliva Lévy, paru le 22 février 2026 dans la presse. Il fait beau aujourd'hui, mais quel froid! Vous pensez que ces petites conversations sont sans importance? Que ce small talk n'est qu'une forme de politesse? Détrompez-vous, car ça peut vous faire le plus grand bien. À la machine à café ou à une conférence, on a souvent des petites conversations où on parle de la pluie et du beau temps. C'est une forme de politesse et en même temps, un petit rituel qui fait partie du savoir-vivre. C'est un lubrifiant social. Ces petites conversations facilitent les interactions et renforcent le bien-être, estime la psychologue Rachida Azdouz. Ce small talk a, selon elle, une fonction sociale et psychologique. C'est une façon de créer des ponts entre les individus, d'installer un climat de confiance et de convivialité pour assurer une transition vers des échanges plus profonds. Ça permet de briser la glace, d'éviter les silences gênants, dit Rachida Azdouz. Même si ces échanges sont légers, ils contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance et à briser l'isolement. C'est avec ces petites conversations que peuvent naître des amitiés et même des histoires d'amour, lance Julie Blais, Como, spécialiste de l'étiquette. Quand on s'intéresse à l'autre, quand il y a des expériences et des valeurs communes, une curiosité et une écoute active, ces débuts de conversation peuvent mener plus loin. Et même quand on parle de la météo, c'est une bonne façon de lancer une conversation, pense-t-elle. Ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur la personne. Un avis que partage Anne de Marizy, formatrice en savoir-être au travail, qui estime qu'on doit tous faire un effort, même les plus timides, pour échanger quelques mots qui font plaisir. Elle cite la phrase célèbre de la psychologue américaine Amy Cuddy, « Connect, then lead ». Connecter, puis diriger. Il faut montrer qu'on est à l'écoute de l'autre, qu'on est bienveillant, en parlant de sujets universels comme la météo. C'est une façon de bâtir des relations de confiance. Selon Matthew Wildhaber, conseiller en rhétorique, on sous-estime l'importance de ces conversations alors que, paradoxalement, on admire les gens qui sont à l'aise socialement. Il y a de nombreux avantages à bien le maîtriser, dit Matthew Wildhaber. D'un point de vue professionnel, ça permet de développer son réseau, de montrer son leadership et de fédérer les gens autour d'une cause. Et pour obtenir un poste convoité ou une promotion, l'aisance à tisser des liens peut faire la différence, pense Julie Blais-Como. Le small talk est une compétence qui s'acquiert, croit Matthew Wildhaber, car il ne s'agit pas simplement d'échanger des banalités. C'est bien plus que cela. C'est l'art de dialoguer. Les gens considèrent que ces discussions sont futiles, car la plupart du temps, ces échanges peuvent être insipides. Mais quand vous avez les outils pour le maîtriser, on passe à un autre niveau. Ça devient un plaisir. Ça vous met en valeur, tout comme vos interlocuteurs. Et surtout, vous savez que peu importe où vous êtes, vous arriverez à tisser des liens, analyse l'auteur de « Petit manuel de rhétorique en entreprise ». Le small talk peut toutefois créer un malaise chez les introvertis qui trouvent ces échanges forcés et artificiels. Il peut y avoir des risques d'intrusion lorsqu'on maîtrise mal ces échanges ou donner l'impression d'une curiosité indiscrète, souligne Rachida Azdouz. Elle observe que certaines cultures valorisent plus ou moins ces conversations. Dans les pays nordiques, Finlande, Suède, Norvège, le silence est socialement accepté et n'est pas perçu comme gênant. Au Japon, le small talk existe, mais il est codifié et limité. On évite les sujets personnels. Pour ce qui est de la Suisse, Matthew Wildhaber, originaire de ce pays, remarque qu'on ne va pas beaucoup vers les autres. On a peur de déranger. Il y a une grande pudeur. Chez nous, il rappelle toutefois que le small talk est un vrai gain social. Savoir bien communiquer, C'est bon pour la réputation. Et n'oubliez pas qu'un deal peut commencer à la machine à café, souligne-t-il. On prend un risque en parlant avec les autres, dit Anne de Marizy. Mais on a beaucoup à gagner. Et on se souviendra de vous. Conseil pour bien maîtriser le small talk. Brisez la glace, ayez le sens de l'observation. Est-ce que la personne est venue à vélo? Est-ce qu'on a une connaissance en commun? Il faut avoir quelque chose de sympathique à dire qui sort de l'ordinaire, conseille Mathieu Wildhaber. Julie Blais-Como et Anne de Marizy suggèrent de miser sur des sujets que tout le monde aime, mais on évite la politique et la religion. Des sujets positifs qui font l'unanimité, les séries et films à voir, les vacances, les voyages, la gastronomie, précise Anne de Marizy. Vous avez déjà épuisé vos sujets, c'est le silence? On relance. On peut raconter des anecdotes sur sa vie professionnelle, on pose des questions ouvertes ou on peut rebondir, pense Mathieu Wildhaber. Quand on sait qu'on va assister à une conférence ou à un événement social, on se prépare. On a en tête des choses à dire. On contribue à l'événement en ayant une ouverture vers l'autre, conseille Julie Blais-Como. Comment préparer la sortie? Nos spécialistes conseillent de préparer des phrases clés qui évitent de tomber dans le malaise. Dans le genre, c'était sympathique. Tu m'excuseras, mais je dois vite aller répondre à des courriels. À plus tard. Ce fut très agréable de vous rencontrer. Bon succès est aussi une façon très professionnelle de quitter la conversation. C'était « Les bienfaits de ces petites conversations », un texte d'Oliva Lévy, paru le 22 février 2026 dans La Presse.
Comment adapter l'entraînement aux conditions hivernales? Un texte commandité paru le 24 janvier 2026 dans La Presse. Le froid et la neige ne signifient pas nécessairement qu'il faut ranger vos chaussures de course jusqu'au printemps. Avec l'équipement adapté et en suivant les conseils ci-dessous, vous serez tout à fait en mesure de continuer à jogger tout l'hiver et d'y prendre goût. Consultez les prévisions météorologiques. Bien qu'il soit tout à fait possible de courir en plein blizzard ou lors d'une vague de froid extrême, l'entraînement peut être plus difficile dans de telles conditions, en plus d'augmenter le risque de blessure. Avant chaque sortie, évaluez les conditions selon votre tolérance au froid et à l'effort, ainsi que votre expérience de la course hivernale. N'hésitez pas à reporter une séance ou à la remplacer par une activité moins exigeante à l'intérieur. Soyez visible sur la route. Si vous courez tôt le matin ou après le boulot, il fait probablement noir. Ainsi, portez une lampe frontale pour bien voir où vous mettez les pieds, de même que des vêtements munis de bandes réfléchissantes sur tous les côtés pour vous rendre plus facilement repérable. Une autre option, planifiez vos courses pendant le dîner pour profiter du soleil. Portez plusieurs couches de vêtements. Habillez-vous comme s'il faisait de 5 à 10 degrés Celsius plus chaud. Il est normal d'avoir un peu froid au départ. Votre corps se réchauffera rapidement avec l'effort. Superposez des couches successives de vêtements respirants en privilégiant la laine, le polyester et le nylon. Évitez le coton, qui retient l'humidité et par conséquent vous refroidit. Adaptez vos chaussures de course. Avec des chaussettes faites de laine mérino et des crampons amovibles, vous pourriez conserver vos souliers de course habituels. Cependant, des chaussures spécialement conçues pour la course hivernale offrent davantage de confort, de stabilité et d'adhérence grâce à leur semelle adaptée aux surfaces enneigées ou glacées. Buvez suffisamment d'eau. La soif
peut se faire moins sentir l'hiver, mais il demeure important de bien vous hydrater avant chaque course. C'est que l'air froid et sec accroît les pertes d'eau, même lors d'une activité physique d'intensité modérée. Pour les sorties qui s'étirent au-delà de 45 à 60 minutes, emportez une bouteille isotherme pour vous réhydrater en chemin. Planifiez un parcours flexible. Plutôt que de partir loin dans une seule direction, puis de faire demi-tour, privilégiez un trajet qui vous permet de rentrer rapidement en cas d'inconfort ou si la météo se détériore. Par exemple, courez en boucle ou empruntez un réseau de sentiers rapproché dans un parc. Échauffez-vous. Le risque de blessure peut augmenter lorsque les muscles ont froid. Les échauffements dynamiques, un balancement des jambes, des torsions du tronc, une rotation des bras et quelques mouvements de cheville sont donc encore plus importants à faire l'hiver. Échauffez-vous de préférence à l'intérieur, juste avant de sortir. Cela activera la circulation sanguine et atténuera la sensation de froid. Respirez par le nez. L'air froid est sec et susceptible d'irriter les voies respiratoires. Dans la mesure du possible, inspirez et expirez par le nez plutôt que par la bouche pour réchauffer et humidifier l'air avant qu'il n'atteigne vos poumons. Vous pouvez aussi couvrir la partie inférieure de votre visage d'un foulard ou d'un cache-cou pour conserver davantage de chaleur et d'humidité. Pensez durée plutôt que vitesse. L'expérience de courir l'hiver est différente de celle du reste de l'année. L'effort requis varie considérablement d'une sortie à l'autre en fonction de la température, de l'état des trottoirs, de la visibilité et de divers facteurs indépendants de votre volonté. Courez prudemment, sans trop vous préoccuper de la distance parcourue ni de votre rythme habituel. Félicitez-vous plutôt pour chacune de ces minutes où vous avez défié l'hiver. Votre assiduité maintiendra votre système cardiovasculaire en excellente forme jusqu'au printemps. Changez-vous dès la fin de la course. Votre température corporelle chute rapidement après l'effort, surtout quand vos vêtements sont humides. Si vous rentrez directement à la maison, sautez sous la douche et changez-vous dès que possible. Prévoyez au minimum un chandail de rechange et une tuque sèche si un détour s'avère nécessaire. Récompensez-vous d'une boisson chaude. Vous l'avez bien mérité après tout. C'était « Comment adapter l'entraînement aux conditions hivernales », un texte commandité paru le 24 janvier 2026 dans la presse.